Alors quand je priais, j'ai failli le dire ce matin, mais pour ce message, pour pas que ce soit simplement une histoire racontée, mais que ce soit quelque chose qui puisse parler à nos cœurs, à tous, j'ai eu comme l'impression que le Seigneur me disait à quel point chacun de vous, vous êtes précieux ici. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un petit peu de ton cœur pour raconter Jacob, que ce soit pas seulement une histoire racontée. Je sais que je raconte bien, mais ce n'est pas le problème. Ce que je voudrais, c'est autre chose. C'est que les cœurs de chacun puissent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que ce ne soit pas seulement une belle histoire qu'on raconte. Il y a des gens encore plus doués que moi pour faire ça. Mais que, j'ai un petit peu, que je puisse vous transmettre un petit peu du cœur de Dieu. Un petit peu, parce qu'il est tellement immense. Et j'ai eu l'impression que Dieu me disait, si tu savais à quel point j'aime chacun de ceux qui vont écouter le message, individuellement. Et si tu savais à quel point je fonde des espoirs pour la vie de chacun, alors ça t'aidera. Et je dis, tiens, c'est bizarre, mais c'est vrai, à quel point Dieu aime chacun de nous. Et c'est dans ce contexte qu'on veut raconter l'histoire de Jacob. C'est en sachant à quel point chacun de vous, grand et petit, Dieu vous aime. Et à quel point pour la vie de chacun, il n'a pas seulement des plans. Vous dites, ah ben voilà, Dieu a un plan pour ma vie. Oui, c'est un petit peu sec de le raconter comme ça. Il a plus que des plans, son cœur de père est impliqué dans la vie de chacun. Et il a plus que des plans, il a des espoirs. Vous savez, les parents font toujours des espoirs sur leurs enfants. Parfois, c'est un peu insensé, ils les voient tous, le président de la République ou je ne sais quoi. Mais Dieu a des espoirs aussi pour nous. Et ils sont quelquefois très, très élevés et on se dit, on ne pourra jamais les atteindre. Et si vous, vous n'avez plus d'espoir pour vous, il se peut qu'il y ait parmi nous des gens qui n'ont plus d'espoir pour eux-mêmes. Bof, bof. Eh bien, il y en a toujours un qui aura toujours des espoirs sur votre vie, qui fondera toujours un espoir sur votre vie, c'est Dieu. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, vous direz, oh, moi j'ai 90 ans, on n'en a pas ici, mais bon, il n'y a plus d'espoir. Si, il y a toujours un espoir pour chacun. L'amour de Dieu inconditionnel est immense pour chacun de nous, et il y a aussi un espoir. Il fonde un espoir. Voilà ce que j'ai reçu, donc je vous le transmets. Et j'espère que l'histoire de Jacob va vous parler dans ce sens. C'est une partie de l'histoire de Jacob qui est un peu difficile. J'ai beaucoup prié dessus pour essayer de ne pas vous dire de bêtises. J'en ai parlé avec André, on a échangé avec pas mal de gens. J'ai lu pas mal de choses. Je vais vous dire ce que maintenant il y a dans mon cœur sur cette fameuse lutte de Jacob. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, Jacob, petit-fils de... C'est qui son grand-père ? Abraham. Fils d'Isaac, il avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Et selon ce que Dieu avait dit à Rebecca, sa mère, il devait être l'héritier spirituel et matériel d'Abraham et Isaac. Mais comme il est né quelques minutes après son frère jumeau, il était quand même le second. Mais il lui tenait le talon et on l'a appelé Jacob, le supplanteur. C'était un jeu de mots sur le mot talon. Et il fera tout pour réaliser la prophétie de Dieu qui disait que ce serait lui l'héritier et l'aîné. Malheureusement, c'est lui qui le faisait au lieu de laisser Dieu faire. Il a acheté le droit d'aînesse de son frère d'une façon peu élégante. Il a volé sa bénédiction, c'est encore pire, en se faisant passer pour lui, en se déguisant et profitant que son père était presque aveugle. Résultat, au lieu d'avoir son fameux héritage, il a dû fuir parce qu'il y avait le danger de la vengeance de son frère. Et puis, sa mère souhaitait qu'il prenne une femme, non pas parmi les Cananéennes, qui avaient des mœurs assez bizarres, mais dans la famille de son oncle, donc qui était à 300-400 kilomètres, à Haran, au nord d'Israël. Là, on a vu qu'il a été à l'école de Dieu, c'est-à-dire qu'il a passé par toute une série d'événements où il a appris ce que c'était que d'être manipulé, lui qui le faisait si bien, d'être trompé, lui qui l'avait aussi si bien fait, et d'avoir un salaire qui change tout le temps aux mains d'un homme très peu scrupuleux qui aimait beaucoup l'argent. Et pendant 20 ans, il va devoir travailler pour cet homme qui se trouve être son oncle et son beau-père du fait qu'il a épousé contre sa volonté ses deux filles puisqu'il avait été trompé. Donc 20 ans, 14 années pour avoir sa femme et puis 6 ans encore parce que l'autre a réussi à le convaincre de rester. Puis voilà que le moment est venu, Jacob veut partir. Il avait déjà essayé au bout de 14 ans, mais ça n'avait pas marché, ce n'était pas le temps de Dieu. S'il était parti avant le temps de Dieu, on avait dit qu'il aurait probablement eu des ennuis. Là, ces femmes sont d'accord, la famille est d'accord, sa famille à lui, et au bout de 20 ans, il est prêt à partir et Dieu lui dit maintenant, tu peux rentrer chez toi. Et j'avais fait remarquer que quand Dieu dit tu peux y aller, il ne faut pas hésiter. Si on marche dans le temps de Dieu, on se trouve dans la ligne de ce verset qui dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et ça, je peux vous le dire que je l'ai vu combien de fois. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il est capable de disposer favorablement même les gens qui vous détestent. C'est incompréhensible, mais ça, je ne peux pas le dire par la foi. Je l'ai vu, de mes yeux, vu. Des situations de frères et sœurs ou même dans notre famille où quand Dieu nous demandait quelque chose et approuvait ce qu'on faisait, c'est quelque chose qui était juste et bon, il était capable de changer l'attitude même des gens qui ne nous aimaient pas du tout ou qui nous détestaient, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. C'est un verset qui est tellement, tellement vrai. Et on a vu que Dieu va complètement bloquer les réactions de Laban. Laban, c'était sa main-d'œuvre qui partait. C'était son intendant qui s'en allait. Ce gars qui avait réussi à multiplier ses troupeaux. Quand il est arrivé, c'était la pauvre Rachel qui promenait les moutons. Il n'avait pas un gros troupeau. Et là, au bout de 20 ans, il a des troupeaux immenses. Il est immensément riche. Jacob aussi, d'ailleurs, ses troupeaux se sont multipliés. Donc, évidemment, il n'a pas envie de le perdre. Laban, évidemment, au bout d'une semaine, quand il s'aperçoit que l'autre est loin, il va le poursuivre. Et il va accuser Jacob de toutes sortes de choses. Mais dans la nuit, la veille où il devait rencontrer Jacob, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, ne fais rien de mal à Jacob. Et il a tellement peur, je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais il lui a collé une bonne frousse, ce qui fait qu'il n'a pas osé toucher à Jacob. Et il s'est contenté de râler. Il y avait un peu de sang français, j'imagine. Il s'est contenté de râler et de lui dire « Ouais, tu ne te rends pas compte, tu m'as trompé, tu es parti sans dire au revoir, tu as emmené mes filles comme des captives, voilà, alors que lui, il les avait vendues, mais bon, ce n'est pas grave. J'aurais fait une fête, en plus, il ment. » Mais enfin, il se contente de parler, mais il ne touche pas, alors qu'il aurait pu. Il était avec des hommes armés, il avait ses fils qui n'aimaient pas Jacob du tout. Il avait de quoi, il était tout à fait en mesure de lui faire beaucoup de mal, d'ailleurs. Il lui dit un moment, il lui dit, tu sais, j'aurais pu te faire du mal, mais Dieu m'en a empêché. La seule vraie accusation de Laban, vous vous en souvenez, c'était, tu m'as volé mes dieux. Et j'avais dit, c'était important, parce que les archéologues ont trouvé que quand quelqu'un possédait les dieux d'une famille, c'était les dieux de la maison. Dans le film de Jacob que les enfants sont en train de regarder, on voit qu'il les a rangés dans une sorte de petit placard. Et c'est des sortes, ça ressemble plutôt à des bouteilles qu'à des dieux. Mais enfin, bon, on fait en fonction de ce qu'on a retrouvé comme reste archéologique. Et ça prouve qu'il était polythéiste. Et que si quelqu'un possédait les dieux d'une famille, ça veut dire qu'il avait droit à son héritage. Donc on avait intérêt à ne pas perdre ses dieux. Parce que celui qui mettait la main dessus, il pouvait demander votre héritage. Ce qui explique pourquoi il tenait à les récupérer. C'était la preuve légale du droit à la majeure partie de l'héritage. Donc, il est en colère. Il dit à Jacob, tu m'as trompé, tu as volé mes dieux. Pour une fois, ce n'est pas Jacob qui avait trompé. Ce n'était pas Laban, c'était Rachel. On avait remarqué d'ailleurs que Rachel les avait bien cachés. Elle s'était assise dessus en disant, moi, je suis malade, je ne bouge pas de là. Son père n'avait pas cherché. Et malheureusement, Jacob avait bêtement dit que celui qui a fait ça meurt. Je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Elle est morte peu de temps après. Depuis Bethel, on constate aussi que Jacob reconnaît Dieu et son action et l'action de Dieu dans sa vie. On va voir que depuis Bethel, il a changé. C'est pas « si tu es vraiment mon Dieu, si tu me suis, si tu m'accompagnes, si tu me protèges, alors vraiment, tu seras mon Dieu ». C'est plus ça. C'est le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. S'il n'avait pas été pour moi, il dit à Laban, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Il a conscience que Dieu est pour lui. Et on avait remarqué ça. Il dit, Dieu a vu mon affliction et ma fatigue. Et la nuit dernière, il a rendu son arbitrage, c'est-à-dire, il a montré qu'il était pour moi. Il dit ça à Laban, il fallait oser le dire. Il fallait qu'il ait une conviction profonde, parce que Laban, il était là avec ses hommes armés. Ça ne se passait pas dans un petit salon, devant une tasse de thé. Ils étaient dans le désert avec l'armée de Laban, la petite armée de Laban. Et puis lui, il était là avec ses femmes et ses petits mouflets. Il y en avait des tout petits, il y en a qui venaient, 5-6 ans, les plus jeunes. C'était quand même pas facile. Donc, il est clair, il reconnaît clairement que Dieu est pour lui. Et on avait insisté là-dessus. Dieu est pour nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, ça ne veut pas dire, parce que souvent, nous, on aime bien quand les gens sont pour nous, hein, on le voit dans la société, il faut qu'ils nous donnent raison sur tout. Non. Parce qu'on n'est pas Dieu, nous, hein. On fait des bêtises. Et quand Dieu dit, qu'il est pour nous, ça veut dire qu'il nous soutient, qu'il nous conduit, qu'il nous protège, qu'il est un père. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison sur tout ce qu'on fait, parce que dites donc, avec Jacob, il y avait de quoi dire aussi, hein. Mais quand Dieu est pour nous, ça veut dire qu'il veille sur nous et il fait tout pour nous faire grandir. Il fait tout pour nous faire sortir de nos sottises aussi. Hein, ce n'est pas une adhésion totale, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus gentil. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est de la guimauve. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Il nous aime, il est pour nous, mais il n'approuve pas nos sottises. Il essaie de nous en faire sortir. Et on voit que c'est exactement le cas avec Jacob. Donc Jacob a changé son regard sur Dieu. Il est capable de dire « Dieu a vu mon affliction et ma fatigue et Dieu est pour moi ». Et ça, c'est terriblement important. Et j'avais précisé la dernière fois, si vous avez l'impression que Dieu ne voit pas les difficultés que vous traversez, eh bien c'est dommage, parce qu'il voit. Et si Jacob a été capable de s'en rendre compte, je pense que nous aussi, on a quand même plus de témoins que lui derrière nous. Hein. Lui, il avait Abraham et Isaac derrière lui. Bon, l'histoire de Noé, l'histoire d'Adam, il avait dû en entendre parler, hein. Mais il n'avait pas grand monde. Il n'avait pas de texte, mais il a été capable de comprendre que Dieu était pour lui. C'est quand même, après tout ce qu'il avait vécu, 20 ans de souffrance chez Laban, être capable de dire que Dieu est pour lui, ça veut dire qu'il avait compris quelque chose. Que ce n'est pas parce qu'il avait des ennuis que Dieu n'était plus pour lui, ce n'est pas parce qu'il avait traversé des épreuves que Dieu l'avait abandonné. Il n'était pas bête quand même, Jacob, je trouve. Il avait quand même compris que Dieu était pour lui malgré les épreuves, malgré les difficultés. J'admire quand même. Et puis, c'est la crainte de Dieu donc qui a été inspirée dans le rêve de Laban, qui va empêcher Laban de reprendre tout à Jacob. Il était en mesure de le faire. Hein. Au cas où il ne comprendrait pas, d'ailleurs, il lui dit clairement, au verset 43, on l'avait lu, je crois, chapitre 31, il est quand même un peu gonflé, je trouve. Il lui dit ouvertement, ses filles sont mes filles, ses fils sont mes fils, ce troupeau est mon troupeau, tout ce que tu vois m'appartient. C'est pas lui qui avait travaillé pour les avoir, mais c'est pas grave. Que puis-je faire aujourd'hui? Maintenant, viens, concluons une alliance. Et puis, un petit peu avant, il lui avait dit, je suis en mesure de te faire du mal. Ce qui était quand même une réconciliation un petit peu louche de la part de Laban. Par contre, on a vu qu'on avait la description après d'une alliance très forte, puisqu'ils vont faire un repas, un sacrifice. Donc, devant Dieu, ils s'engagent à faire un pacte de non-agression, plus qu'une alliance. Et j'avais précisé à ce moment-là qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir pardonner, mais il faut savoir aussi se protéger, et qu'il y a des choses où on peut pardonner sans pour autant se mettre en danger. Pujol citait ce cas de femmes qui étaient battues, et il disait « c'est insensé de leur dire pardonne et reste » pour les retrouver couvertes de bleu la semaine suivante. C'est bien de dire pardonne, mais il faut aussi mettre les gens en sécurité. Et c'est un peu ce qui se passe avec Jacob. Il pardonne, mais il va se mettre en sécurité, il ne reste pas avec Laban. Il ne reste pas à continuer à se faire exploiter, c'est important. Mais ceci étant, il lui pardonne. Parce que quand on mangeait avec quelqu'un, quand on faisait un sacrifice devant Dieu avec quelqu'un, à cette époque, c'était clair, le pardon était accordé. Il n'y avait plus rien entre eux. Ça n'empêchait pas de partir, évidemment. Et donc, en faisant alliance avec Laban, il manifestait concrètement son pardon. Et il semble que Dieu a totalement validé ce pardon, cette alliance de pardon et de non-agression, en assurant Jacob de sa protection. Et là, il y a un événement, je crois qu'on l'avait noté la dernière fois. Je reprends un petit peu pour qu'on se retrouve bien dans le texte. Un événement qui ne prend qu'un verset, c'est le verset 2 du chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin, des messagers de Dieu le rejoignirent, certains textes ont les anges de Dieu. En les voyant, Jacob dit, c'est la troupe de Dieu, et il appela ce lieu du nom de Mahanaïm, les deux troupes. Je crois que quelque part, Dieu a permis que Laban rattrape Jacob pour que rien ne reste sur la conscience de Jacob, qu'il y ait un pardon qui soit donné. Surtout que maintenant, il va devoir affronter pire que Laban, Ésaü, qui avait bien envie de le tuer 20 ans avant. Et apparemment, Dieu a envoyé ses troupes une fois qu'il a été sûr que Jacob avait pardonné. Il aurait pu, dès la sortie, envoyer ses anges autour de Jacob. Mais il a attendu que Jacob ait réglé ses affaires avec Laban, qu'il ait pardonné, qu'il ait fait un pacte de non-agression, que les choses soient claires avec Laban, qu'il se quitte en bons termes pour lui assurer sa protection et sa bénédiction. Et là, dans le texte, c'est d'une clarté. Laban se lève de bon matin, il embrassa ses fils, ses filles, les bénit, il va jusqu'à bénir tout le monde, est parti. Laban retourne chez lui, Jacob poursuit son chemin, des messagers de Dieu le rejoignirent. C'est vraiment très proche, les deux textes. Et quand c'est comme ça dans la Bible, ça a un sens. La Bible est un livre extrêmement sobre. Elle ne va pas vous donner toutes sortes d'explications. C'est à nous de creuser et de comprendre. Il a réglé ses comptes avec Laban. Il est parti dans la paix, avec la bénédiction de Laban, qui plus est. Et là, Dieu manifeste son aide et envoie ses anges. Et nous, dans notre vie, c'est pareil. Il y a bien des moments où Dieu pourrait nous envoyer de l'aide, où Dieu voudrait nous envoyer de l'aide. Mais il est bloqué parce que notre cœur est endurci par un non-pardon, par quelque chose qui nous bloque. Qui est justifié? Attendez, hein, 20 ans de malheur chez Laban, vous ne croyez pas qu'il était justifié quand même? Sa colère était justifiée et sa rancune aurait pu être justifiée. Mais Dieu veut qu'on soit libéré de ça. Non pas pour l'autre, parce que Laban, ça ne lui a pas fait forcément un bien fou, hein, il perdait son intendant de surcroît, mais c'est à Jacob que ça a fait du bien. Jacob avait sa conscience pure, il ne retenait rien contre Laban et il était capable maintenant de recevoir l'aide de Dieu. Et malheureusement, dans nos vies, c'est souvent comme ça. Et dans les familles, combien de familles sont bloquées par des non-pardons? Quelquefois pour des toutes petites choses. Quand maman est décédée, le notaire nous a dit... donc avec ma sœur, on a dû aller voir le notaire et... Bon, ce n'était pas un problème du tout. Et le notaire a dit, ah, si toutes les successions se passaient comme ça, ce serait merveilleux. Et je lui dis, parce que c'est souvent qu'il y a des problèmes. Il me dit, mais c'est presque toujours, madame. Presque toujours. Des gens qui se sont bien entendus toute leur vie, qui vont se dépouiller, qui vont presque se battre au moment d'un héritage. Pourquoi? Parce qu'en amont, il y avait des non-pardons. Ce n'est pas que les choses éclatent comme ça, brutalement, out of the blue, hein. Non, c'est simplement parce qu'en amont, il y avait des non-pardons. Il y avait des vieilles rancunes. Et le jour où les parents meurent, ça sort. Et combien on gagnerait, surtout nous, chrétiens, à laisser tomber les rancunes familiales, à laisser tomber, à pardonner. Il y a des choses qui sont où la rancune serait justifiée humainement. Hein. Je ne dis pas, il y a des familles où vraiment il y a eu des torts qui ont été faits. Mais est-ce qu'on n'est pas gagnant devant Dieu et devant les hommes, à laisser tomber. Comme disait Pujol, laisser tomber. Et pardonner. On est toujours gagnant à pardonner, parce que là, on a l'aide de Dieu. Et dans les familles, si vous savez qu'il y a encore dans vos familles des vieilles rancunes qui traînent, le mieux, c'est de les régler. Parce que là, l'aide de Dieu, vous avez vu, c'est immédiat. Il règle les problèmes avec Laban, Jacob poursuit son chemin, les anges de Dieu le rejoignirent. La bénédiction de Dieu vient toujours après un pardon. Alors parfois, il y a des élèves qui me disent « Mais madame, c'est trop facile, alors les gens font du mal, et puis il faut leur pardonner, non mais oh !» Je dis « Mais qui est-ce qui a mal au ventre? Qui est-ce qui ne dort pas bien la nuit quand ils ne pardonnent pas ?» Vous savez, en cinquième, ils le savent, hein, ils ne sont pas idiots, hein. Ah, bon, ce n'est pas celui qui a fait du mal, hein, souvent, c'est celui qui a été blessé, donc il faut peut-être mieux pardonner, puis être en bonne santé, puis laisser ça entre les mains de Dieu. Donc voilà, les messagers de Dieu peuvent venir maintenant. Et il y a un autre danger à affronter, ça va être Ésaü. Il doit affronter les fruits de sa tromperie après avoir affronté les conséquences de la tromperie de Laban. On est dans la tromperie jusqu'au cou. Il a fait alliance avec Laban, c'est une bonne introduction pour le deuxième épisode parce que cette fois c'est Ésaü qui va devoir lui pardonner. Et on a là l'illustration de la prière qu'on fait tous ou qu'on a tous fait un jour ou l'autre. Notre Père qui est aux cieux, etc., pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Eh bien, on a l'illustration là. Ésaü, pardonne-moi mes offenses, comme moi j'ai pardonné à Laban. Il a pardonné à Laban. Maintenant, il peut dire Ésaü, pardonne-moi. Non seulement il a l'aide de Dieu, mais maintenant il peut dire Ésaü, pardonne-moi. Alors évidemment, à cette époque-là, on ne parlait pas comme ça. Vous savez, chaque époque a ses tics de langage. On avait une autre façon de demander pardon, vous allez voir. Il demande pardon à sa manière. On ne ferait plus ça maintenant, hein. Je ne vous enverrai pas des troupeaux de moutons pour me faire pardonner si je vous ai fait du tort. Je viendrai vous demander pardon. Mais à cette époque-là, on avait une autre manière de faire. Ce n'est pas grave. Donc, parce qu'il a pardonné à Laban, Dieu peut lui envoyer de l'aide et peut maintenant veiller à ce que Ésaü lui pardonne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir le pardon d'Ésaü ? Il sait qu'il va passer sur un territoire proche d'Ésaü. Et là, le téléphone arabe marchait très, très bien. Ésaü a été au courant que Jacob, je ne sais pas comment, sans doute par des nomades, hein, que Jacob allait passer. Et la première chose qu'il va faire, il va envoyer des messagers. Première étape, il envoie des messagers vers Ésaü, donc il lui envoie une lettre, et il lui laisse entendre qu'il est riche. On se dit, bah pourquoi ? Qu'est-ce qu'il en a à faire, Ésaü ? Eh bien, ça lui laisse entendre que je ne vais rien te réclamer cette fois-ci. Hein. La dernière fois, je t'ai roulé deux fois de suite. Là, je ne viens pas dans un esprit de réclamation. Je suis riche, j'ai besoin de rien. Et puis, il fait entendre aussi qu'il désire trouver grâce aux yeux d'Ésaü. Alors ça, c'est important, parce que c'était le début de sa demande de pardon. Puis il apprend par un serviteur, les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés vers Ésaü, ton frère, il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Ah là, c'est chaud, hein ? Là, il panique un petit peu. Il lui avait dit, j'ai des bœufs, des ânes, du bétail, voilà, et je te le fais dire pour trouver grâce à tes yeux. Et tout ce qu'il a comme réponse, ben voilà, Ésaü, avec 400 petits copains qui viennent à ta rencontre. Ça, c'est un peu chaud. Et là, la Bible est claire, Jacob eut très peur. Quand je vous dis que la Bible est sobre, en trois mots, elle a décrit la situation. Il a très peur. Alors, C'est assez bizarre, on va le lire. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Et là, vous savez, il fonctionnait très bien du côté de son cerveau. Il partage en deux troupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Vous imaginez, hein, les énormes troupeaux qu'il a dû falloir faire bouger. Il dit, si Ésaü attaque l'une des troupes et la met à mal, l'autre troupe échappera. Ben, il essaie de minimiser les dégâts. C'est humain, et bon, je pense qu'il n'a pas tort. Il semble avoir oublié qu'il y avait la troupe de Dieu. Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe ? On oublie que Dieu est pour nous. On oublie qu'il a envoyé ses anges. On oublie qu'il a des promesses à notre égard. On oublie que c'est lui qui l'avait envoyé. Quand on a peur, la peur et l'angoisse, ça coupe toute l'espérance. Et s'il y a un truc dans la vie chrétienne que je trouve difficile, c'est lutter contre la peur. Hein, qu'on ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 80 ans, lutter contre la peur, c'est difficile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est extrêmement difficile. Lutter, quand l'angoisse commence à venir, oh, quel que soit le sujet de notre peur, c'est très très difficile. Et vous allez voir comment il va régler ça. Il dit, il a eu très peur, il est saisi par l'angoisse, il fait deux troupes, et dit, si Ésaü attaque une, ben voilà, l'autre échappera. Bon, c'est un moindre mal. Et Jacob dit, Seigneur, Dieu d'Abraham. Ah, première action pour lutter contre la peur, prier. Prier. Elle est intéressante, cette prière de Jacob. On va la prendre ligne par ligne. Il dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, ce n'est plus seulement le Dieu d'Abraham et Isaac. Tu m'as dit, tu m'as parlé. Et quand on a peur, qu'on fait face à des angoisses de toutes sortes, la première chose à rappeler, qui est Dieu ? Qui tu es Dieu ? Tu n'es pas un Dieu éloigné qui pense aux humains une fois tous les 10 ans. Tu n'es pas le Dieu de l'univers, le grand créateur qui ne s'intéresse pas du tout aux fourmis que nous sommes. Non, c'est le Dieu de ma famille. C'est le Dieu qu'on a accepté comme Dieu. C'est le Dieu de mon père, mais c'est le Dieu qui m'a dit. Qui m'a fait des promesses. Alors vous allez me dire, mais Dieu ne m'a jamais fait de promesses. Ah bon ? Ah ! Eh bien, lisez, il y en a plein là. Il y en a plein. Il y en a plein de promesses dans la Bible. Des promesses fantastiques. Elles sont aussi pour vous, hein. Seulement, bon, il faut se déranger pour aller les chercher. Il faut apprendre à lire. Mais ça, je crois que tout le monde sait lire. Donc, il n'y a pas de souci, elles sont là, elles sont disponibles. Donc, Dieu, toi qui m'as dit. Donc, devant l'angoisse, devant la peur, rappelez-vous, qui est Dieu ? Vous savez, je dis parfois, on a un petit Dieu de poche. Il rentre bien juste dans la petite poche. Alors que c'est le Créateur de l'univers qui a envoyé Jésus. Et devant un truc comme ça, après avoir vu les anges et tout qui venaient l'aider, il a encore peur. Pas parce qu'il est comme nous. Jésus a donné sa vie pour nous et on a encore peur. Que voulez-vous ? Toi qui m'as dit, donc on s'appuie sur les promesses de Dieu, retourne dans ton pays au lieu de tes origines et je te ferai du bien. Oh, il se rappelle de la promesse en entier. C'est bien. Parce que moi, je sais que quand j'ai très peur, j'aurais enlevé le bout là. Retourne dans ton pays au lieu de tes origines. J'aurais oublié et je te ferai du bien. Parce que hein, quand on a peur, on a tendance à... Donc non, il faut citer la promesse en entier. Et il rappelle la promesse, il ne le rappelle pas pour Dieu, hein, je pense. Je pense que vous avez compris que la prière de Jacob, c'était pour lui, c'était pas... Il sait bien que Dieu se souvient, mais en le disant... Il y a des gens qui me disent ça parfois. Mais ça sert à quoi de dire tout ça à Dieu ? Il le sait. Ce n'est pas la peine de prier, il sait tout. Mais non, parce que quand on prie, c'est pour nous, c'est à nous que ça fait du bien. On se rappelle les vérités essentielles. Lui, il le sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, etc. Il sait qu'il a parlé, attendez, quand même. Mais nous, on a besoin de s'en rappeler. Et il aime bien qu'on le redise devant lui. La démarche suivante, c'est « Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montré envers moi, ton serviteur. » La reconnaissance et l'humilité. « Je ne suis pas le grand chèque Jacob. » Parce que bon, c'était ça, hein, c'était un chèque. « Je suis trop petit. Vraiment, je ne mérite pas tout ce que tu as fait pour moi. » Ah ben, il était temps qu'il s'en aperçoive Jacob quand même. Hein, parce que dites donc, il en a fait des sottises. « Je suis trop petit pour tout ce que tu as fait pour moi. » Et il va même jusqu'à donner des détails. Pour lui, c'est important. « J'ai passé ce jour-là avec mon bâton. » Il était seul, rappelez-vous, contrairement à Abraham, qui était arrivé avec une troupe énorme, ses serviteurs, etc. Lui, il est parti tout seul, avec son bâton. « Et maintenant, je forme deux troupes. » Donc, il est conscient que Dieu l'a béni et il est reconnaissant. Et maintenant, il arrive à son sujet de prière. Elle est belle, cette prière. Vous pouvez la relire plusieurs fois. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. » Ah, maintenant que j'ai bien précisé qui tu es, j'ai rappelé tes promesses, je suis reconnaissant, je suis humble parce que bon, je sais que je suis trop petit maintenant pour faire face. Il a besoin de savoir. « Délivre-moi. » Il ose le dire, « Délivre-moi. » Et regardez l'honnêteté de Jacob. Alors ça, j'ai apprécié. « Je crains qu'il vienne me frapper en tuant la mère et les enfants. » Moi, j'ai remarqué que souvent, les chrétiens ont du mal à dire dans leur prière, « Seigneur, j'ai peur. » Le grand Jacob dit, « Je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère et les enfants. » Il dit la vérité. Et dans nos prières, je crois que c'est important de dire la vérité. Parfois, on a l'impression de ne pas être très spirituel si on dit ce qu'on ressent. Mais je pense que c'est important. C'est important de dire à Dieu, j'éprouve tel et tel sentiment, je suis rempli de haine, je suis rempli de jalousie, je suis rempli de colère, j'en ai ras-le-bol. Et pourquoi ? Il le sait de toute façon. Mais c'est bien que vous puissiez le verbaliser. Pour vous aussi, c'est important. Osez dire à Dieu, n'ayez pas peur de ne pas être spirituel. C'est bien plus spirituel de dire la vérité. Parce que qu'est-ce qu'on a entendu en long, en large, en travers ? Parce que la vérité nous rend libres. Et il dit la vérité, Seigneur, j'ai peur. Et j'ai peur de quoi ? Ben, il le dit, que mon frère tue toute ma famille. Et puis après cette vérité, ah, ça c'est super. Et toi, tu m'as dit. Donc d'un côté, Seigneur, j'ai peur qu'il tue tout le monde. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. D'un côté, j'ai peur, il risque de tuer toute ma famille, humainement, hein, c'est ce qui va arriver. Mais de l'autre côté, toi, tu as dit, et ta parole est créatrice, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance innombrable, etc. Et c'est comme les deux plateaux d'une balance. Si je reste sur ce plateau-là, j'ai peur, il va tuer tout le monde, c'est l'horreur. Ma prière est complètement déséquilibrée. C'est bien de le dire, mais si je reste là-dessus, là je vais sombrer dans une dépression grave. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, il va tuer tout le monde. Si je reste seulement sur le deuxième plateau, Seigneur, tu as dit, c'est la méthode Coué, hein ? Seigneur, tu as dit, c'est bien, mais il faut que je sois honnête aussi. Pourquoi je dis tes promesses ? Parce que j'ai peur. Et pourquoi j'ai peur de la situation, mais à côté, je vais mettre tes promesses. Et il y a les deux. Et j'ai réfléchi, j'ai demandé à André si c'était juste, mais il me semble que dans nos prières, il faut le 1 avec le 2. Parce que si, par exemple, je ne fais que j'ai peur, je vais avoir une prière complètement défaitiste. Je vais me démoraliser. Hein. Je vais parler à Dieu pendant 2 heures de tout ce qui me fait peur, de tout ce qui est horrible, de tout ce qui m'angoisse. Et là, je craque. D'un autre sens, si je ne fais que citer les promesses de Dieu sans jamais lui dire ce que je ressens au fond de mon cœur, je tombe dans une hypocrisie épouvantable. Il faut que les deux soient ensemble. Les deux plateaux de la balance pour avoir l'équilibre. Seigneur, j'ai peur, mais toi, tu as dit. Seigneur, j'ai peur qu'il tue tout le monde, mais toi, tu m'as fait des promesses. La vérité et les promesses de Dieu. Et je pense que c'est une bonne recette pour nos prières, si on peut appeler ça comme ça. C'est se rappeler que je dis ce que je ressens, mais je ne m'arrête pas là. Je proclame les promesses. Et pas l'un sans l'autre. Moi, j'ai souvent entendu, surtout les hommes, là, je vais peut-être retomber un peu sur les hommes, non, mais les femmes aussi, ça leur arrive, de dire, oh, on proclame les promesses de Dieu, Dieu est bon, Dieu est grand, etc. Et puis, tout va bien par la grâce de Dieu. D'un autre sens, j'ai aussi entendu des gens pleurer sur leur misère, leur péché, leur malheur, sans jamais proclamer la promesse de Dieu en face. Voyez, on peut vite se déséquilibrer dans la foi. Je dis toujours qu'être chrétien, on dit parfois qu'être chrétien, c'est un signe de faiblesse. Ça me fait bien rigoler, parce que je trouve qu'il faut être très fort pour justement garder cet équilibre. C'est pas évident. C'est plus facile de tomber d'un côté ou de l'autre. L'équilibre, c'est un exercice un peu difficile. Alors là, j'avais fait un petit exercice, mais on peut voir ce texte de deux manières différentes, comme d'autres textes avec Jacob, c'est ennuyeux. Alors je vous montre les deux manières différentes. Jacob est parti sur l'ordre de Dieu, il a pardonné à Laban, Dieu se révèle à lui en lui manifestant son armée céleste, il se prépare à rencontrer Ésaü en prenant certaines précautions. Il lui dit qu'il est riche, il se met un peu à la place d'Ésaü, qu'est-ce que ça me ferait moi, etc. Il montre qu'il n'est pas venu pour récupérer un héritage lié au droit d'aînesse. Il sépare ses gens et ses troupeaux en 2 camps, question de sécurité. Il fait tout ce qui lui est possible, sagesse, bon sens et sens des responsabilités. Et après ça, il prie. Ensuite, il va préparer plusieurs cadeaux successifs. Je ne vais pas lire le texte, mais il va faire des petits groupes de petits troupeaux. Je ne sais plus combien il y a d'animaux à chaque fois, 100, je crois, qu'il envoie avec un serviteur, avec un message qui est toujours le même. « Ceci est à Jacob, ton serviteur, c'est un présent qu'il t'envoie, mon Seigneur Ésaü, si ce n'est pas de l'humilité, lui-même nous suit. » Il n'est plus dans cette position de, comme il était avec Ésaü, « Vends-moi ton droit d'aînesse, puis tu auras tes lentilles. » Ce n'est plus du tout ça. Il est dans une attitude de respect, de générosité aussi, parce que c'était important. Et il se dit, je l'apaiserai par des présents. Il va essayer de compenser les torts qu'il a faits. Ah, c'est pas le tout de demander pardon aux gens. Il faut peut-être aussi compenser quand on peut le faire. C'est important aussi. Et puis, je paraîtrai en sa présence. Et c'est pas de la lâcheté. Vous allez voir, il prépare le terrain. Il montre son humilité, sa repentance. C'est sa façon de demander pardon. Puis après, lui, il vient. Je paraîtrai ensuite en sa présence, peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Et ce peut-être, il me dit beaucoup. Parce qu'il est plus sûr de lui comme il était autrefois, peut-être m'accueillera-t-il favorablement. C'est-à-dire qu'il sent bien qu'il a des bonnes raisons de lui en vouloir et il vient demander pardon avec humilité. Donc vous voyez l'attitude de Jacob. Alors maintenant, il y a des gens qui voient ce texte-là complètement négativement. Je vous le dis quand même par souci d'honnêteté intellectuelle, mais je ne suis pas d'accord. Il dit, il ne fait pas confiance à Dieu, puisqu'il a recours à ses manipulations habituelles. Il essaie d'acheter les bonnes grâces de son frère. Il cherche à sauver la moitié de ses biens. Il a tellement peur qu'il flatte son frère en l'appelant son Seigneur. Ça, c'est une erreur historique. Les gens qui ne connaissent pas le contexte historique. Il ne croit pas que Dieu peut apaiser la colère de son frère, alors qu'il vient d'arrêter Laban un peu avant. Il est ingrat, incrédule et oublieux. Voilà comment on peut prendre ce texte. D'où ce que je vous avais dit la dernière fois, prions avant de lire la Bible. Vous voyez, toute la richesse qu'on perd en disant des sottises, à mon avis, ce sont vraiment des sottises. Parce que la façon dont il dit « peut-être m'accueillera-t-il favorablement » prouve qu'il n'était pas du tout dans cet esprit d'achat et de manipulation. Les manipulateurs, en général, sont assez sûrs d'eux. Là, il n'était pas du tout sûr de lui. Jacob envoie ses cadeaux, lui, il reste sur place. Et là, on a le passage peut-être le plus important de l'histoire de Jacob. Il se couche, il attend, il sait que les messagers sont partis avec les petits troupeaux, plusieurs messagers. Bon, il a prié, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Humainement, je crois qu'il avait fait tout ce que la sagesse pouvait lui dire de faire. Il avait pris ses précautions pour protéger la famille dont il était responsable. Il avait le sens des responsabilités. Il avait pris tout ce qui... Et au milieu de la nuit, il se dit non, ça ne suffit pas encore. Il prend tout ce qu'il a de plus précieux, sa famille proche, ses biens. Il leur fait traverser la rivière près de laquelle ils étaient arrêtés, la rivière du Yabok. Il y a un petit gué où on peut passer à pied presque sec. Et lui, il reste de l'autre côté de la rivière. Il les fait traverser. Il reste seul de l'autre côté de la rivière. Je me suis toujours demandé pourquoi. Je n'ai pas de réponse. Et puis, la nuit avance. Ça prouve qu'il ne dort pas. Hein. Il n'a pas pu dormir. On se met à sa place. Hein. Quand votre frère arrive avec 400 hommes. Et la nuit est déjà assez avancée. Je le signale parce que souvent, ce texte est mal interprété. Il faut bien regarder de près. Parce que la nuit était déjà commencée quand il a envoyé sa famille de l'autre côté. Ça a dû prendre du temps. Et il revient de ce côté de la rivière. Il essaie de dormir, il ne dort pas. Et tout d'un coup, un homme l'approche et commence à se battre avec lui jusqu'au lever du jour. C'est incompréhensible, ce texte. Alors là, le texte est extrêmement sobre. Donc, j'ai essayé de m'imaginer la scène. Donc, vous voyez, la famille est de l'autre côté de la rivière. Il dort quelque part. Est-ce qu'il a une tente ou est-ce qu'il dort tout seul sous un arbre, ou je ne sais quoi. Mais il essaie de dormir, il n'y arrive pas, et voilà un homme qui saute sur lui et qui l'attaque. Le vocabulaire hébreu utilisé, je ne suis pas spécialiste, mais je me suis renseignée, précise bien qu'il s'agit d'une lutte physique. Ce n'est pas dans sa tête, ce n'est pas dans ses pensées. Jacob, visiblement, ne va pas appeler au secours, soit parce qu'il n'y a personne qui pourrait l'entendre, il vient de renvoyer tout le monde de l'autre côté de la rivière, soit parce qu'il pense s'en sortir seul. Je vous avouerai que moi, je penche pour ça, parce que c'était un homme très fort. C'était un berger qui avait du muscle, qui était malin, qui était rusé quand même. Hein. Et vous savez, les gens qui font du judo le savent, la force physique, ça ne suffit pas. Il faut un peu de ruse. Hein. Et il avait ça, pas de souci. Il est très fort physiquement, et je pense qu'il se disait « je vais m'en sortir ». Il est tout seul, le gars. Je l'aurai à l'usure. C'est lui qui avait poussé la pierre du puits pour Rachel tout seul. D'habitude, ils attendaient qu'il soit plusieurs pour le faire. Je pense qu'il était très fort. Et on voit cet inconnu qui se bat avec lui pendant un certain temps. Jacob n'arrive pas à voir le dessus. Et l'inconnu non plus. Et cet inconnu va le frapper. Alors, la traduction est très difficile, donc j'ai regardé toutes les possibilités. En gros, c'est l'articulation de la hanche qui se démet pendant la lutte. Et là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il demande ? Il retient l'inconnu. Il venait de lui faire horriblement mal. C'est pour ça qu'il y a des choses dans le texte qui ne vont pas. Il retient l'inconnu et lui dit « Ah, quel est ton nom ?» Vous savez, quand on vient de vous faire un truc pareil, je ne sais pas si c'est ça qui vous intéresse le plus. Comment il s'appelle ? Il aurait pu le demander avant. Il lui demande « Quel est ton nom ?» Puis après, il lui dit « Je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni. » Alors là, je dis qu'il y a quelque chose qui nous manque, nous, au XXIe siècle. On n'est pas du tout branché sur ce texte-là et on ne comprend rien. L'inconnu lui dit « Laisse-moi partir » et il lui dit « Ah ça, pas question ». Et l'inconnu dit « Mais l'aurore arrive ». Alors, il y a des petits malins qui se sont dit « Ah ah, c'est comme les histoires de vampires, l'aurore arrive et il faut que cet inconnu s'en aille parce qu'il ne peut pas supporter la lumière du jour ». Ben tiens. Mais non, Jacob, il faut avoir du bon sens aussi quand on lit la Bible. Jacob avait devant lui une journée extrêmement dangereuse, extrêmement importante, et il avait beaucoup de choses à faire, et l'inconnu savait. Donc il lui dit « Laisse-moi partir », l'aurore se lève, Jacob refuse, il exige sa bénédiction. Alors là, je ne comprends plus rien au texte. Le gars l'a frappé, il boite, il souffre, il lui demande son nom, et après il lui demande sa bénédiction. Alors là, il y a des choses visiblement qui nous échappent. Eh bien, je pense que la réponse, c'est simple. C'est que sur le coup, Jacob a commencé à se battre en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce rôdeur ? J'en aurais vite eu raison. » Puis il s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait normal, ce rôdeur. Il n'avait pas le dessus facilement. Ils étaient à égalité. C'est important, ça. Et pour ne plus être à égalité, il a fallu que l'inconnu utilise une manœuvre surnaturelle. On ne déboîte pas la hanche de quelqu'un fort comme Jacob, comme ça. Et ça, il l'a compris tout de suite, lui. Il s'est dit, je n'ai pas affaire à un homme normal. Et alors, je veux savoir qui c'est. Alors, vous voyez, déjà, ça prend du sens. Il n'est pas normal, ce gars. Ce n'est pas un homme comme les autres. Je veux savoir qui c'est. Et il ne donne pas son nom. Il dit, alors, je ne veux pas que tu me quittes sans que tu m'aies béni, parce que d'un seul coup, il a fait le rapprochement. S'il a pu faire ça, c'est qu'il a la force de Dieu. Ce n'est pas un homme. Et il me lâchera, je ne le lâcherai pas avant qu'il m'ait béni. J'ai affaire à quelqu'un de bizarre. Bon, ça, c'est la traduction dans l'immédiat. Mais on va aller un peu plus loin. L'inconnu, de son côté, va demander le nom de Jacob. On dit, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Il vient lui administrer une super raclée, il vient l'handicaper. Il lui demande son nom, comme s'il ne savait pas, s'il est surnaturel, il le savait. Mais en fait, il l'oblige à verbaliser ce qu'il est. Jacob, trompeur, supplanteur. Et il lui dit, tu ne seras plus appelé comme ça. Il change son nom, Israël. Alors, Israël, là, je me suis battue avec tous les commentaires. Il y a 36 possibilités de traduction. Mais une des possibilités, c'est tu as lutté avec Dieu. Dieu lutte, Dieu se montre fort, celui qui voit Dieu. Et il y en a une liste comme ça, je vous ai juste donné quelques-uns. En gros, il y a quand même l'idée de lutte avec Dieu. Et puis le texte se termine toujours très sobrement et il le bénit là. Jacob, de son côté, va appeler le lieu Péniel, la face de Dieu, et il va dire « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Alors ça, ça tient en quelques versets, puis on n'y comprend pas grand-chose. Je me suis battue sur ce texte pendant un bon moment. Alors, Jacob vit un moment très difficile. Sa relation avec Dieu s'est établie depuis Bethel, c'est clair. Il a commencé vraiment une vie nouvelle. Là, il prépare un nouvel épisode de sa vie, loin du joug de Laban. Dieu lui a parlé pour qu'il parte, il l'a protégé, il a vu l'alliance et le pardon avec Laban, il l'a assuré de sa protection en lui montrant l'armée céleste. Mais maintenant, Jacob doit faire face à la plus terrible épreuve de sa vie. L'hostilité justifiée de son frère, le fruit de sa tromperie, la conséquence de ses péchés de manipulation et de mensonge, la prise en main de sa destinée. Donc il est dans ce contexte. C'est important pour comprendre. Dans cette rencontre avec son frère, il peut tout perdre, tout ce qu'il a, par sa faute d'il y a 20 ans. Vous savez, parfois les choses nous poursuivent. D'un côté, il a les promesses de Dieu, de l'autre côté, les conséquences de ses péchés, l'aide et la protection de Dieu, de l'autre côté, la menace de mort. D'un côté, l'espoir d'apaiser son frère, de l'autre côté, la colère justifiée. Donc, essayez de vous imaginer tout ce qui tourne dans sa tête. Il fait nuit, tout ça tourne dans sa tête. Il fait passer le fleuve à sa famille, il revient. Il est seul et il est dans un état de confusion terrible. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si ça ne vous est pas arrivé, écoutez bien, parce que ça peut vous arriver un jour. De vous retrouver dans un état de confusion tel qui n'arrive même pas à identifier celui qui l'attaque. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on vit une telle confusion, on ne sait plus si c'est Dieu, si c'est le diable, si c'est les hommes, si c'est notre nature, si c'est qui, quoi, qu'est-ce, qui nous attaque. Ceux à qui c'est arrivé vont certainement comprendre de quoi je parle. Ceux à qui ce n'est pas arrivé, un jour vous relirez ce texte-là et vous comprendrez. Il y a des moments dans la vie où Dieu permet certaines difficultés. Quelquefois à cause de nos erreurs, c'est le cas de Jacob, parfois pas forcément, où on est dans un tel état de confusion qu'on ne sait plus du tout contre qui on se bat. On se bat de toutes nos forces, on y met toute notre énergie et tout notre savoir-faire. Il fait nuit, on est seul, les autres dorment. Vous savez cette impression qu'on est seul à se battre avec un problème pendant que les autres roupillent ? Si ça vous est déjà arrivé, c'est horrible. Cette lutte intérieure peut durer longtemps avant qu'on reconnaisse que c'est avec Dieu qu'on se bat. Et que cette lutte est destinée à nous changer, à changer notre nom, à changer notre attitude, à démettre notre hanche. Qu'est-ce qui se passe quand on a la hanche démise ? On ne marche plus comme avant. Et ce genre d'expérience, ça vous empêche de marcher comme avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le symbole est très fort. Ce texte me fait penser en fait aux prophéties mimées de l'Ancien Testament. Vous savez, les prophètes, quand Dieu leur disait « Prends une ceinture, mets-la dans le mur, laisse-la pourrir, prends un plat avec des fruits pourris, des fruits frais, etc. » Parce que les gens, ils étaient comme nous, ils aimaient les images. Nous, maintenant, on a la télé. Et eux, ils avaient des prophètes qui leur mimaient des choses. Certaines choses se comprennent beaucoup mieux par l'expérience. Alors maintenant, qui est ce messager ? Dieu ou le messager de Dieu ? En fait, réfléchissez bien, si on prend le texte, il s'est fait homme, c'est clair. Il s'est fait homme pour se battre à armes égales avec Jacob. Est-ce que nous aussi, on n'a pas quelqu'un qui s'est fait homme pour vivre notre vie ? En choisissant d'être un homme ordinaire, ce messager constate que Jacob est un lutteur acharné. Est-ce que Jésus ne constate pas souvent qu'on est nous aussi des lutteurs acharnés ? Qui ne lâche pas prise, il a du ressort, il a de la force, il a de la ruse. Il aurait été bon en judo. En restant dans le naturel, on ne peut pas vaincre un Jacob. Et si Jésus était resté purement dans le naturel, est-ce qu'il serait arrivé à quelque chose avec nous ? On ne peut pas vaincre un Jacob en restant dans le naturel. C'est un gars qui a du ressort, de la force. Alors le messager de Dieu, il a recours à la force de Dieu, à une force surnaturelle, miraculeuse. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, là c'est incompréhensible, Jacob n'est pas écrasé, il n'est pas vaincu. C'est incompréhensible. Il est transformé. Le texte est riche en symboles. Il n'est pas écrasé, mais il est transformé. Il peut recevoir la bénédiction de Dieu et son nom va être changé. Et vous savez, le nom, c'était important à cette époque. C'était tout votre être. Jésus, en se faisant homme, s'est mis à notre niveau. Il a vécu notre vie d'homme. On lui a résisté, mais il nous a touchés de façon surnaturelle. Il a touché nos vies. Il nous a fait marcher différemment. Il a changé notre nom et il nous a bénis. Et c'est comme si Dieu avait dit à Jacob, au travers de cet épisode, « Tu es fort ». Et je crois que c'est un peu ce que Dieu dit à chacun de nous. « Tu es fort ». On peut être fort quand on est buté dans notre tête. « Tu es fort ». Je me suis battue avec toi d'homme à homme. Tu t'es battue de toutes tes forces. Il y en a peut-être ici qui pourront se reconnaître. Tu as mis toute ton énergie sans savoir qui tu avais en face de toi, sans même poser la question. Il aurait pu le demander au début, qui tu es, toi qui m'attaques. Tu es fonceur, débrouillard, indépendant, autosuffisant. C'est bien Jacob, ça, courageux, fort et fier. Et ce n'est pas par la force humaine, mais c'est par mon esprit, par ma force divine, que j'ai dû intervenir. Je t'ai touché, ton articulation s'est démise. Et en un instant, tu as compris. La Bible dit, le mot utilisé, c'est toucher. C'est pas frapper. Il semble, j'ai vérifié. En un instant, tu as compris. Tu ne pouvais plus marcher comme avant. Ton arrogance, ta fierté, ton indépendance, ton autosuffisance ont disparu. Tu as réclamé ma bénédiction. Tu as compris quand j'ai utilisé ma force surnaturelle. Tu as compris qui je suis, ta chair est irrémédiablement blessée et handicapée. Tu as besoin de ma bénédiction pour continuer la route et pour rencontrer Ésaü et ses hommes. Tu en as eu toujours besoin en fait. Reconnais que tu es le supplanteur, il lui demande son nom, le trompeur. Reconnais ton état de péché. Tu as beau être fort et manipulateur. Tu es Jacob, mais maintenant c'est fini. Ton nom ne rappellera pas ton passé, tes fautes. Mais lutteur avec Dieu, ton expérience de cette nuit, la relation mouvementée avec ton Dieu, ton changement, et je crois que là on peut parler de conversion. À Bethel, tu m'as rencontré, tu m'as reconnu comme ton Dieu, tu as fait un vœu, mais maintenant toi tu es changé. Tu ne marcheras plus de la même manière. Et j'ai réfléchi, est-ce qu'il y a d'autres hommes dans la Bible qui ont fait la même expérience ? Mais oui. Ça ne s'est pas fait sous forme de lutte, mais Dieu a eu un geste surnaturel qui les a cassé quelque part. Un événement de la vie qui a cassé quelque chose de profond, comme l'articulation de la hanche, chose de très profond. Pensez à Moïse. Ne croyez pas quand il a tué l'Égyptien et qu'il a dû s'enfuir, il y a eu quelque chose de cassé dans sa vie. Moi, le prince d'Égypte, moi, je vais délivrer mon peuple, moi. Et puis, il fait une bêtise, il se bat, il tue l'Égyptien et c'est fini. Il y a quelque chose de cassé. Son zèle, son arrogance, son autosuffisance, moi le prince d'Égypte, vous allez voir, je vais sortir mon peuple de l'esclavage. Tout ça, c'était fini. Par contre, Dieu a pu changer son nom. Il s'est devenu le sauveur, effectivement, de son peuple, mais par la grâce surnaturelle de Dieu. Il n'a plus marché comme avant. Joseph, notre bon Joseph, qu'on a vu il y a quelques années. Vous ne croyez pas que c'est la même chose ? Joseph, qui racontait ses rêves à ses frères. « Oh, bah attendez, vous allez tous un jour vous prosterner devant moi. » Petit prétentieux, bourré d'orgueil, mais Dieu voyait au-delà de son orgueil. Vous savez, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est derrière nos défauts, il voit ce qu'il peut faire de nous. Ah, vous ne trouvez pas ça sympa ? Ça, c'est la grâce. Dieu voit nos défauts autant que les autres humains et même pire. Mais derrière, il voit ce qu'il peut faire lever en nous. Et il ne s'est pas arrêté à l'orgueil de Joseph, il ne s'est pas arrêté à ses prétentions, il a vu derrière ce qu'il pouvait lever chez Joseph. Et ça, c'est pareil pour nous, hein ? Il voit nos défauts, mieux que votre voisin, mieux que votre mari ou votre femme, parce que nous, on en voit quand même pas mal hein, chez les conjoints, et bien il en voit plus encore, mais il voit derrière qu'est-ce qu'il peut faire lever chez nous. Et je pense que c'est ça que Dieu m'a mis à cœur ce matin quand j'ai prié, qu'il a de grands espoirs sur chacun de nous. Parce que derrière nos défauts, il voit ce qu'il peut faire lever. Il voit ce qu'il faut casser. Aïe, l'autosuffisance, l'indépendance, l'orgueil. Mais derrière, il se dit, waouh, quand j'aurai cassé ça, il ne marchera plus de la même manière. Et Joseph, avec un bon petit séjour dans le puits, accusé à tort chez Potiphar, un bon séjour en prison, c'est devenu un homme extraordinaire, un grand homme politique, rempli de compassion, rempli d'intelligence, de sagesse, blablabla. Eh oui, Dieu en a fait quelqu'un d'extraordinaire. Mais vous ne croyez pas que chez lui aussi, il y a eu quelque chose de cassé ? Ce n'était pas l'articulation de la hanche, mais c'était une articulation du cœur hein, qui a dû casser. Et puis Pierre, quand il a renié Jésus, vous ne croyez pas quelque chose qui a cassé ? « Seigneur, je te suivrai partout ! Jamais je te renierai ! Oh, oh, oh. Moi, Pierre, grande bouche, grand cœur, type génial !» Il y a eu quelque chose de cassé. Ce jour-là, quand il a croisé les yeux de Jésus, vous savez, juste dans la cour, là, il a vu Jésus qui passait, tout plein de sang, j'imagine, il venait d'être battu et tout, et tout, et tout. Et puis, leurs regards sont croisés. Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui a cassé, là ? Ce n'était pas l'articulation de la hanche, c'était l'articulation du cœur. Quelque chose qui a cassé. Seulement après, Pierre n'a plus été le même. Relisez les épîtres de Pierre. Ça n'a plus été le même homme. Et je crois, je m'arrêterai là parce que j'ai un petit peu dépassé, naturellement. Je crois que tous, un jour ou l'autre, on vit ça. Et ne pas le vivre, je dirais, c'est presque dommage. Parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Maintenant, le vivre, c'est dommage aussi parce que c'est l'horreur. Ce moment de confusion, ce moment de bagarre, ce moment où Dieu est obligé. Alors, il se sert souvent d'événements. Je vous ai cité Moïse, Joseph et Pierre, mais vous en trouverez peut-être d'autres dans la Bible. Mais Jacob, ça a été ça. Maintenant, mon petit Jacob, c'est fini. Tu ne vas plus marcher pareil. Mais en fait, c'est tous tes défauts que je vais enlever. Et ton nom va être changé. Ça, c'est chouette. Il n'aura plus besoin de dire « Moi, le supplanteur, mais moi, celui qui est lutté avec Dieu. » Et j'ai eu sa bénédiction. J'ai gagné. Ce texte m'énervait un peu au début. Il a lutté avec Dieu, il a eu le dessus. « Ouais, tu parles, il n'a pas eu le dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais bien sûr qu'il a eu le dessus. Il a eu la bénédiction de Dieu. Bien sûr, de cette manière. Vous voyez, la Bible, hein, on ne peut pas toujours la prendre n'importe comment. Il a eu la bénédiction de Dieu. Son cœur a changé, sa façon de marcher a changé. Et pour la semaine prochaine, on va voir un Jacob tellement différent. Vous vous rendez compte que c'est lui qui va bénir le Pharaon ? C'est un autre Jacob. Il va avoir un petit temps de dépression, mais après, il va remonter. Non, on va. Ah oui, ben il est comme nous. Hein. Vous savez, j'ai découvert une chose, c'est que ce grand patriarche, il est terriblement proche de nous. Malgré nos 4000 ans qui nous séparent, il est terriblement proche de nous. Et voilà, je vais juste prier pour ceux qui peuvent être dans cette situation où ils se bagarrent peut-être, tout seuls, dans le noir. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin, parce que pour chacun de nous, tu as un amour sans limite. Chacun individuellement, tu as un amour sans limite. Et tu as des plans, tu as plus que des plans. Tu fondes des espoirs sur chacun de nous. Tu veux changer notre nom. Seigneur, pour certains, sont peut-être déjà passés par cette expérience. Peut-être d'autres sont en train. Pour d'autres, ça va venir. Mais Seigneur, dans tous les cas, ce que nous te demandons, c'est ta bénédiction. Que vraiment, on ait chacun la volonté de dire « Je ne te quitterai pas que tu m'aies béni. » Même si je ne dois plus marcher comme avant. Même si je suis débarrassée de mon autosuffisance, de mon orgueil, de mon indépendance. je deviens dépendant de toi. Mais Seigneur, que j'ai ta bénédiction. Merci Seigneur pour ces exemples, pour Jacob, pour Moïse, pour Joseph, pour Pierre, qui nous ont devancés et qui nous encouragent à être selon ton cœur dans toute notre vie et ne pas avoir peur de perdre ce qui nous entrave pour faire ce que tu veux, Seigneur, de nos vies, pour que nos vies soient rayonnantes comme l'ont été celles de Moïse, de Joseph, de Pierre et de Jacob. Amen.